Vous écoutez, on lit pour vous.
Soignez mieux, gaspillez moins, un dossier de Mathieu Perrault, paru le 23 février 2025 dans La Presse. Au Québec, la nouvelle agence Santé Québec cherche des économies de 1,5 milliard par année. Est-ce possible de contenir les dépenses tout en offrant des soins de haut niveau? Quand on regarde la Suède, la réponse est oui. Un système efficace, un patient gagnant. Södertälje, Suède. Plancher de bois blond. Mobilier flambant neuf. Ulrika Gran me fait faire le tour du Södertälje Vard Central, la clinique publique qu'elle gère dans une petite ville à une demi-heure de la capitale suédoise. Ici, le laboratoire de tests sanguins. Là, le centre de suivi pour les jeunes enfants. Plus loin, le quartier général du groupe d'infirmières qui offre les soins à domicile. Il y a aussi des psychologues, dont les services sont couverts par l'État, des médecins. À bien y penser, les Vard Central en Suède ressemble au CLSC qu'on aurait rêvé d'avoir au Québec. Ce réseau de cliniques, ancrées dans leur communauté, offre une brochette complète de soins de première ligne qui évite aux patients d'aller encombrer les urgences avec des problèmes mineurs. En Suède, seulement 8 à 10 % de la population n'est pas inscrite à un Vard Central, mais ce n'est pas faute de place. Et si un patient veut voir le médecin, peut-il obtenir un rendez-vous le jour même? Un patient qui a besoin de voir un médecin peut le voir le jour même, parfois le lendemain, me répond Sarah Fidan, chef d'unité au Södertälje Vard Central. Nuance importante. Ne débarque pas qui veut à la clinique. Il faut téléphoner d'abord. Les trois quarts des problèmes sont réglés par l'infirmière au bout du fil. Ce mécanisme de triage réduit les déplacements inutiles. En Suède, il y a deux fois moins de consultations médicales, 2,1 par année par habitant, qu'au Canada, 4,7. Il faut dire que les patients qui ont besoin de voir le médecin paient un ticket modérateur d'environ 35 $, gratuit pour les jeunes et les aînés, mais le déboursé est plafonné à environ 180 $ sur 12 mois. D'ailleurs, le patient paie davantage s'il se rend aux urgences d'un hôpital, car on veut encourager la première ligne, qui est moins dispendieuse et plus proche du patient. L'objectif est d'offrir le niveau de soins le plus efficace au coût le moins élevé, dit Martin Forsette, chef des soins primaires de la région de Stockholm. Autrement dit, soignez mieux, gaspillez moins. Dans les années 1980, la Suède avait l'un des systèmes de santé les plus coûteux au monde. Une série de réformes lui a permis de contenir ses dépenses, malgré le vieillissement de la population. Aujourd'hui, son système de santé coûte moins cher qu'au Québec, en proportion du PIB. Mais différents indicateurs, faible mortalité infantile, faible taux de mortalité évitable grâce à la prévention et au traitement, témoignent de la qualité des politiques publiques et du système de santé suédois. Rien n'est parfait, évidemment. Il y a des problèmes. On manque d'infirmières, les patients attendent trop longtemps, cite la médecin Elena Nordenstedt, qui m'accueille à la réputée université Karolinska Institutet avec une tasse de glögg. Ce vin chaud, version sans alcool, est à l'honneur en cette matinée de la Sainte-Lucie. Mais quand je compare avec les autres pays, j'apprécie ce que j'ai à la maison, enchaîne la professeure de santé mondiale. La population est assez d'accord avec elle. Les trois quarts, 74 % des Suédois, sont satisfaits de la disponibilité des soins contre seulement 56 % des Canadiens, selon le panorama de la santé de l'OCDE. Une partie du succès de la Suède, c'est que le pays scandinave n'hésite pas à fixer des objectifs et à mettre en place des mesures incitatives pour atteindre les résultats. Un bel exemple. Auparavant, les personnes âgées pouvaient poireauter de longues semaines à l'hôpital, faute d'endroits pour s'occuper d'eux, comme on le voit au Québec, où un lit sur sept est occupé par un patient qui n'a plus besoin de soins. En Suède, le gouvernement a adopté une loi qui force les municipalités, responsables des soins non médicaux pour les personnes en perte d'autonomie, à payer pour le lit d'hôpital occupé par un patient qui ne requiert plus de soins depuis 3 jours. Depuis, les municipalités sont super rapides, s'exclame Elena Nordenstedt. Elle s'occupe des patients et trouve un endroit avec des soins assistés. C'est ainsi que la Suède a pris le virage des soins à domicile. Et aujourd'hui, la durée moyenne du séjour à l'hôpital est de 5,5 jours en Suède, contre 7,8 jours au Canada, selon l'OCDE. 15,7%, c'est la proportion des Suédois âgés de 65 ans et plus qui reçoivent des soins de longue durée, contre seulement 3,5% au Canada. De ce nombre, plus des trois quarts reçoivent des soins à domicile. 63,9%, c'est le nombre de lits de soins de longue durée pour 1000 Suédois de 65 ans et plus. C'est 30 % de plus qu'au Canada. Un autre exemple. La Suède a mis en place la formule 07-90-90 qui garantit qu'un patient peut entrer en contact avec le système de santé le jour même, voir un médecin en 7 jours, et obtenir une intervention chirurgicale ou un traitement en 90 jours. Si une région ne peut pas respecter ces délais, elle doit envoyer le patient se faire soigner dans une autre région. Elena Nordenstedt raconte que son père avait de la difficulté à marcher à cause d'un problème de dos. Mais il ne pouvait être opéré avant 5 mois dans la région d'Uppsala où il vit. Sa mère a téléphoné au coordonnateur qui lui a offert dès le lendemain une opération le mois suivant dans la région de Stockholm. Le patient est gagnant. Et la région a avantage à être performante car elle doit payer pour les patients transférés ailleurs avec son propre budget. Vous écoutez « Soignez mieux, gaspillez moins », un dossier de Mathieu Perrault paru le 23 février 2025 dans la presse. Optimiser la santé, 5 ordonnances suédoises. Beaucoup de réformes auxquelles le Québec réfléchit depuis des décennies, la Suède les a mises en place depuis longtemps. L'objectif, améliorer le système de santé pour maximiser l'argent investi. Et ça marche, avec certains bémols. Des agences partout. Le 1er décembre 2024, Santé Québec est venu au monde. Brassage de structures, astuces pour mettre les politiciens à l'abri des critiques. La nouvelle agence s'attire des critiques. Mais en Suède, la formule fonctionne à merveille. Il y a des agences gouvernementales partout. 342 au total. Le gouvernement donne de grandes directives et nous leur fournissons les détails pour qu'ils puissent prendre de bonnes décisions. C'est un dialogue. C'est comme ça en Suède, depuis des siècles, évoque Urban Nielen, médecin-chef du Conseil national de la santé et du bien-être, l'Agence suédoise de la santé. De cette manière, le ministère n'est pas toujours en mode crise. Il peut se concentrer sur l'orientation du réseau. Cette séparation des rôles permet aussi de dépolitiser les décisions. Qu'arriverait-il si le ministre de la Santé débarquaient dans un hôpital pour essayer de trouver des solutions à un problème. Ce serait considéré comme complètement inacceptable, s'exclame Urban Nielen. Le ministre doit garder du recul et s'intéresser aux décisions à long terme. Il ne peut pas s'impliquer dans un enjeu spécifique. Décentraliser le réseau. En Suède, le système de santé a été complètement décentralisé en 1982. Il y a des normes nationales, mais ce sont les 21 régions qui sont responsables de fournir les soins de santé. Elles perçoivent elles-mêmes les impôts qui financent les soins. Si les citoyens sont insatisfaits, ils n'ont qu'à voter contre les responsables dans leur région, ce qui instille une culture de responsabilisation et de résultats. La décentralisation donne aussi davantage de marge de manœuvre aux responsables locaux pour innover, allouer les ressources au bon endroit et prendre des décisions en fonction des besoins locaux. Mais la décentralisation a aussi des effets pervers. C'est difficile, avec 21 régions, d'avoir le même niveau de service partout. Ce n'est pas équitable. Si vous vivez à Stockholm, vous aurez de meilleurs services que si vous vivez en région, particulièrement dans le Nord, dit la médecin Helena Nordenstedt. Dans un pays de 10 millions d'habitants, peut-être faudrait-il moins de régions? Le débat est ouvert en Suède. Plus de privé, de productivité et d'iniquité. Depuis 15 ans, les cliniques privées poussent comme des champignons en Suède grâce à l'État qui assume le coût des services de la même manière qu'au public. Le patient n'a rien à payer, sauf le ticket modérateur qui est le même qu'au public. Quel est l'avantage? Le privé peut vraiment stimuler la productivité, estime Martin Forsett, qui est pourtant responsable des 70 cliniques publiques de la région de Stockholm, où l'on dénombre aussi 170 cliniques privées. La concurrence pousse le public à s'améliorer pour peu qu'on donne les coups des franches aux gestionnaires. Par contre, les assurances privées creusent les inégalités. Si on regarde ici, dans le centre de Stockholm, à Södermalm, il y a plein de cliniques. Mais dans les banlieues un peu dures, il y a presque des déserts médicaux, rappelle Tobias Alfven, pédiatre et président, jusqu'en 2024, de l'Ordre des médecins de la Suède. Le bilan du privé est donc mitigé. Chose certaine, il faut être très prudent quand on rédige les contrats, prévient Martin Forsett. À la longue, le privé finit par faire plus de ce qui est payant et moins de ce qui ne l'est pas. Autre bémol. Au départ, la Suède a encouragé les gens qui travaillaient dans une clinique à en devenir propriétaires. Aujourd'hui, ce sont de grandes entreprises qui les rachètent et qui font des profits avec l'argent public, une question qui divise la gauche et la droite. Prévention et collaboration. Une des clés du succès du système de santé suédois, c'est la prévention qui fait que les gens sont moins malades et la collaboration qui fait que les médecins ne sont pas seuls sur la ligne de front. À chacun sa tâche. Par exemple, toutes les femmes enceintes ont une sage-femme qui est responsable de leur grossesse et qui dirige l'accouchement. Quand il y a un problème, on appelle un obstétricien. On travaille en équipe, explique Tobias Alfven. Puis, de 0 à 6 ans, une infirmière est responsable de la santé de chaque enfant. Elle peut donner de l'aide pour l'allaitement, les vaccins, etc. Repenser le salaire des médecins. Ça fait des lustres que le Québec veut revoir le mode de rémunération des médecins qui sont payés à l'acte. Le système est une vraie tour de Babel, avec plus de 11 000 actes. Et il est inflationniste, car il pousse les médecins à multiplier les actes. En Suède, les médecins reçoivent un salaire. Il y a moins d'actes, moins d'ordonnances. Les dépenses pharmaceutiques sont 36 % inférieures à celles du Canada. Et plus de délégation des tâches aux autres professionnels de la santé. Mais au-delà du mode de rémunération des médecins, il y a le montant qu'ils reçoivent. Le Canada compte deux fois moins de médecins, 2,4 par 1000 habitants, que la Suède, 4,3. Mais nos médecins gagnent beaucoup plus. Nos spécialistes, par exemple, ont une rémunération qui équivaut à 4,2 fois le salaire moyen d'un travailleur par rapport à seulement 2,2 fois en Suède, selon l'OCDE. Alors, c'est mathématique. La Suède en a plus pour son argent. C'était « Soignez mieux, gaspillez moins », un dossier de Mathieu Perrault, paru le 23 février 2025 dans La Presse.
Le rêve du TGV au fil du temps. Un texte de Christopher Reynolds de La Presse canadienne, paru le 19 février 2025 dans Le Devoir. Les projets audacieux et promesses en matière de lignes ferroviaires à grande vitesse au Canada remontent à l'époque du gouvernement de Pierre-Elliott Trudeau. Jusqu'à présent, aucun projet n'a été concrétisé. Une vingtaine d'études, d'évaluations de marché et de rapports de groupes de travail ont été réalisés depuis 1984, selon la plateforme High Speed Rail Canada, une ressource en ligne sur le sujet. Maintenant, l'annonce par le gouvernement libéral fédéral d'un projet de train à grande vitesse devant relier Toronto et Québec avec un financement de 3,9 milliards de dollars et la sélection d'un consortium pour concevoir, construire et exploiter la ligne va plus loin que toute autre tentative antérieure. Voici un aperçu de certaines des dates clés des tentatives précédentes pour un transport ferroviaire plus rapide. 1971. Une étude de la Commission canadienne des transports de 1970 examine de près le train à grande vitesse entre Montréal, Ottawa et Toronto. Mais elle détermine que les trains turbo offrent le meilleur moyen d'améliorer le service aux passagers, maximisant le potentiel des voies existantes plutôt que de moderniser l'infrastructure ferroviaire à un coût élevé. Introduits quelques années plus tôt, les turbos à turbine à gaz étaient techniquement capables d'atteindre une vitesse de 270 km/h. Ils n'ont cependant jamais dépassé les 160 km/h sur les lignes ferroviaires canadiennes, ce qui signifie qu'ils n'atteignaient pas le seuil généralement considéré comme étant la grande vitesse. Cette vitesse inférieure était due aux virages serrés, aux passages à niveau, où des ralentissements sont nécessaires, et au fait que les voitures rapides circulaient sur les mêmes voies que les trains de marchandises lourdes qui avaient la priorité, et l'ont toujours. Via Rail a abandonné le turbo en 1982 et l'a remplacé par des trains bombardiers conventionnels à moteur diesel électrique qui atteignaient environ 160 km/h. 1981. Après s'être engagé à créer un transporteur national semblable à Amtrak aux États-Unis pendant la campagne électorale de 1974, le premier ministre de l'époque, Pierre-Elliott Trudeau, demande à Via Rail de déterminer s'il y a un avenir pour le train à grande vitesse au Canada. En 1984, la Société d'État souligne sa « promesse de recettes et d'achalandage » citant des réseaux comme le train à grande vitesse japonais ou le train à grande vitesse français. Le Canada demeure le seul pays du groupe des sept à ne pas posséder de réseau à grande vitesse. Il ne fait aucun doute que l'étude du train à grande vitesse sera un élément clé des plans nationaux à long terme pour moderniser le réseau ferroviaire de transport de passagers du Canada, affirme le rapport de 1984. À plus long terme, en effet, Sept mois plus tard, le règne libéral de deux décennies à Ottawa prend fin et des plans plus détaillés ne se concrétisent pas sous les conservateurs progressistes de Brian Mulroney. 1995. De nombreuses études ont été menées sur l'application potentielle du train à grande vitesse au corridor Québec-Windsor, peut-on lire dans un rapport de 89 pages de Transport Canada, datant de 1995. Il conclut qu'une ligne à 300 km/h est coûteuse mais réalisable, le parcours Montréal-Ottawa-Toronto étant le meilleur scénario. Le rapport prévoit que les recettes atteindraient 1,5 milliard en 1993, soit environ 2,8 milliards de dollars aujourd'hui, compte tenu de l'inflation. Malgré l'appui du premier ministre Jean Chrétien et du premier ministre du Québec Lucien Bouchard, deux adversaires acharnés à propos de la souveraineté du Québec, le rapport finit par prendre la poussière sur une étagère. 2002. Un autre rapport de Via Rail ravive les espoirs de grande vitesse. Il présente un projet fédéral baptisé Via Fast qui vise à réduire les temps de déplacement de moitié, dans certains cas, le long du corridor Windsor-Québec, à 2h15 entre Toronto et Ottawa et à 1h15 entre Ottawa et Montréal. Mais le gouvernement libéral de Paul Martin abandonne le projet. 2017. En Ontario, la première ministre de l'époque, Kathleen Wynne, annonce des plans pour une ligne à grande vitesse entre Toronto et London, en Ontario, d'ici 2025. Les libéraux provinciaux consacrent 11 milliards à cet effort dans leur budget de 2018, moins de trois mois avant que les conservateurs de Doug Ford ne prennent le pouvoir. L'année suivante, le premier budget de son gouvernement gèle le financement des immobilisations et met fin au plan pour les voies ferrées. 2024. Depuis 2011, des discussions sur un train à grande vitesse entre Calgary et Edmonton émergent fréquemment en Alberta. Cette ligne ainsi que les trains de banlieue pour les deux villes font partie de l'objectif du gouvernement de mettre en place un réseau ferroviaire de transport de passagers à l'échelle de la province, avec des piquets dans le sol dès 2027. La première ministre Danielle Smith annonce en avril l'intention du gouvernement d'élaborer un plan directeur sur 15 ans d'ici l'été 2025. Aucun itinéraire n'a encore été annoncé. 2025, le gouvernement fédéral a annoncé mercredi qu'il passerait à la prochaine étape de la construction d'un réseau ferroviaire à grande vitesse entre Québec et Toronto. Le gouvernement libéral a déclaré que le réseau ferroviaire prévu, dont la conception et la construction devraient prendre plusieurs années, sera entièrement électrique, s'étendra sur environ 1000 km et atteindra des vitesses allant jusqu'à 300 km/h. Le trajet comprendrait des gares à Toronto, Peterborough, Ottawa, Montréal, Laval, Trois-Rivières et Québec. C'était « Le rêve du TGV au fil du temps », un texte de Christopher Reynolds de la presse canadienne paru le 19 février 2025 dans Le Devoir.
Le nombre de brevets d'enseignement octroyés au Québec reprend du poil de la bête. Un texte de Zacharie Goudreau, paru le 25 février 2025 dans Le Devoir. Signe d'espoir s'il en est, le nombre de brevets d'enseignement délivrés annuellement au Québec est reparti à la hausse au cours des deux dernières années, indique des données obtenues par Le Devoir auprès du ministère de l'Éducation. On continue toutefois de qualifier moins d'enseignants chaque année qu'au début du millénaire. Il faut que cette tendance se poursuive, a déclaré le cabinet du ministre Bernard Drainville en référence aux 4023 brevets délivrés au Québec pendant l'année scolaire 2023-2024. C'est 18 % de plus que le nombre de brevets distribués 2 ans plus tôt. Une situation que le ministre attribue au programme court de 30 crédits mis en place dans les dernières années pour permettre à des enseignants non légalement qualifiés d'obtenir ce Graal plus rapidement. La moyenne du nombre de brevets délivrés annuellement à des enseignants fraîchement diplômés ou ayant suivi une formation qualifiante a tout de même été de 20 % plus faible entre les années scolaires 2018-2019 et 2023-2024 qu'au début du millénaire, entre 2002-2003 et 2007-2008. On ne peut donc pas parler d'une hausse importante des brevets délivrés au cours des 2 dernières années, alors même que la population étudiante et les départs d'enseignants augmentent rapidement, estime le président de la Fédération des syndicats de l'enseignement, FSE-CSQ, Richard Bergevin. La vice-présidente à la vie professionnelle de la Fédération autonome de l'enseignement, Anne-Christine Tardif, rappelle pour sa part que plusieurs universités ont fait état d'une baisse du nombre d'inscriptions dans plusieurs programmes menant au brevet d'enseignement au cours des dernières années. La profession semble moins attirante. Il y a moins de jeunes qui semblent vouloir se diriger vers cette profession-là, souligne Mme Tardif, qui craint que la fin prématurée des bourses Perspectives Québec exacerbe ce phénomène. Il y a aussi beaucoup d'étudiants qui abandonnent pendant leur stage en enseignement en raison de l'ampleur de la tâche à laquelle ils font face, affirme-t-elle. Le cabinet du ministre Drainville relève pour sa part que le taux de rétention des enseignants a augmenté dans les dernières années pour atteindre 81 % après 5 ans. Ce sont donc 19 % des enseignants qui abandonneraient leur emploi avant ce délai actuellement, contre 22 % en moyenne sur 20 ans. C'est signe qu'on fait de bonnes choses, fait valoir le cabinet. C'était le nombre de brevets d'enseignement octroyés au Québec reprend du poil de la bête. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 25 février 2025 dans Le Devoir.